Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous vous rappelez que pour conclure notre étude sur la lutte entre les deux cités, nous voyons quel doit être notre comportement dans la persécution. La dernière fois, nous avons vu l'importance de la foi et de la prédication de la vérité. Saint Paul nous disait « Prêche à temps et à contre-temps ». Cette fois-ci, je veux attirer votre attention sur l'importance du rayonnement de la charité, qu'on appelle le zèle. Car, rappelons-nous-le bien, la vérité n'est vivante qu'avec la charité. Il faut accomplir la vérité dans la charité, dit l'Écriture sainte. Les premières œuvres de miséricorde spirituelle sont de prêcher la vérité et de corriger les pécheurs. Encore faut-il le faire avec miséricorde. Trois parties à ce sermon. Tout d'abord, la nécessité du zèle. Deuxièmement, les qualités du bon zèle. Et troisièmement, le mauvais zèle dont nous devons nous méfier. Premièrement, la nécessité du zèle. Les apôtres dans l'Évangile remarquent que le zèle de la maison de Dieu dévorait l'âme de notre Seigneur. Qu'est-ce que le zèle ? Je vous donne la définition donnée par Don Marmion dans son livre qui est une pure merveille, Le Christ idéal du moine, et qui en réalité est le Christ idéal de tout chrétien. Le zèle est une ardeur qui brûle, qui se communique, qui consume et se répand. C'est la flamme de l'amour ou de la haine, se manifestant au dehors par l'action. Pourquoi la nécessité du zèle ? Parce que sans lui, l'amour n'enflamme pas. Il est de la nature du bien de se communiquer, et il se communique premièrement à celui qui le reçoit, et deuxièmement, de celui-ci, il se communique aux autres pour que les autres le reçoivent à leur tour. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. La meilleure preuve que nous puissions donner de la nécessité du zèle est dans l'exemple que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, puisque vous savez que notre Seigneur est un modèle que nous devons suivre. Or, nous voyons que le zèle du Christ le dévore jusqu'à sa mort sur la croix. Et c'est sur la croix, en s'offrant à Dieu son Père, que son zèle atteint son sommet. Il dit dans le discours après la scène, juste avant sa passion, « Je veux que tout soit atteint dans notre amour ». Il s'adresse à Dieu le Père. C'est vraiment le zèle de l'amour qui se communique et qui veut que cet amour soit reçu par tous. Et l'amour de Dieu, l'amour de Dieu le Père, pas n'importe quel amour, bien entendu. Or, notre époque se meurt de la médiocrité des bons face au zèle de Satan et de ses complices. Nous ne devrions pas avoir à prouver la nécessité du zèle. Cela devrait aller de soi. Les premiers chrétiens étaient apôtres par nature comme naturellement. Tous les saints ont été zélés à communiquer l'amour de Dieu. Chacun à sa façon, bien sûr, mais tous. Or, si Dieu a donné à chaque époque les saints qui exercent son zèle, si je puis dire, leur zèle qui est celui communiqué par Dieu, alors il est évident que Dieu, à notre époque aussi, communique ce zèle pour qu'il se répande, et qu'il y a donc des saints pour notre époque. Ce ne sont pas seulement les saints des époques passées, ce sont tous ceux qui entendent aujourd'hui l'appel de Dieu. L'appel du Christ sur la croix, « J'ai soif ». Que nous ayons à prouver la nécessité du zèle montre un très grand refroidissement de la charité, un égoïsme, un retour sur nous-mêmes, une préoccupation de notre propre bien-être au milieu des persécutions, alors que, au contraire, les persécutions sont le signe de ce que le démon doit être attaqué. Puisqu'il attaque, on doit contre-attaquer. Et la contre-attaque contre le démon, c'est le zèle de la charité. Lui, en face, le démon, communique le zèle de la haine à tous ses complices, et il leur communique une persévérance qui dépasse le temps, qui est au-dessus du temps. Quand on voit la persévérance des mauvais pour relever le flambeau, ou plutôt le témoin à chaque génération, pour poursuivre dans la haine de Dieu, pour poursuivre dans le travail de chute des hommes. Regardez la persévérance de ceux qui répandent l'impureté aujourd'hui, la persévérance de ceux qui haïssent Dieu, qui haïssent le Christ et son Église, qui haïssent les chrétiens. Saint Pie X disait que le drame de notre époque, ce n'est pas la vigueur des mauvais, mais la faiblesse des bons. La nécessité du zèle se comprend sans peine lorsque nous souffrons de ce que l'amour ne soit pas aimé. C'est Sainte Thérèse, je crois. L'amour, c'est Jésus-Christ, l'amour, c'est Dieu. Nous devrions souffrir de ce que Dieu ne soit pas aimé. Et puis une remarque sur la nécessité du zèle. Le zèle ne doit pas s'exercer seulement envers des individus, mais envers toute l'Église, envers notre patrie, bien entendu, mais envers toute l'Église. Et peut-être c'est une chose qui manque aujourd'hui chez ceux qui ont du zèle. Ils ont du zèle individuel, ils communiquent l'amour à des individus, mais quels sont ceux qui, comme Mgr Lefebvre, avaient non seulement le zèle de l'amour de Dieu, mais le zèle de la maison de Dieu, c'est-à-dire de toute l'Église. Deuxième partie, les qualités du zèle. La foi n'est pas une qualité du zèle, ni une condition. Elle est le zèle. Le zèle, c'est la foi en action, c'est la vérité en action, dans la charité, comme je vous l'ai dit. De même pour la charité, elle n'est pas une condition du zèle, elle est le zèle en action. Par conséquent, si nous voulons vraiment être zélés, il faut d'abord que nous soyons emplis de foi et de charité, emplis de la conséquence de la charité qui est la miséricorde, car le zèle est inséparable de la miséricorde. Il est très important, mes bien chers frères, pour communiquer cette flamme au monde qui en a besoin, que nous en soignons nous-mêmes très riches. On ne peut pas communiquer avec zèle lorsqu'on récite une leçon. On ne peut pas donner une recette avec zèle. Il n'y a que le feu qui communique le feu, et il faut que ce feu nous habite. Pour saint Thomas d'Aquin, le rayonnement de la charité, c'est la miséricorde. Et d'ailleurs, c'est sur la miséricorde que nous serons jugés au jugement dernier. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, dit l'Écriture sainte. Mais comment s'exerce cette miséricorde? Saint Benoît, dans sa règle, donne trois conditions au zèle. Tout d'abord, le respect. Évidemment, non pas le respect du pécheur en tant que tel, et quelquefois, il faut même aller jusqu'à combattre le pécheur, parce qu'il n'y a pas moyen de combattre le protestantisme sans combattre Luther, de combattre le marxisme sans combattre Marx, car il n'est souvent pas possible de combattre le péché qui se répand, surtout quand il y a un zèle démoniaque, un zèle du mal. On est bien obligé d'atteindre celui qui le communique pour éviter que ce mal se répande. Malgré tout, même là, il faut respecter celui qu'on est obligé d'attaquer. Pourquoi le respecter alors qu'il est mauvais? parce que justement il est encore appelé à devenir bon, il est encore appelé à devenir un saint. On ne respecte pas le bois mort, on le coupe et on le jette au feu, mais on respecte l'arbre qui n'a pas encore porté de fruits, parce que justement il est encore appelé à porter du fruit. Et par conséquent, il y a encore un amour de Dieu envers le pécheur qui n'est pas évidemment un amour actuel, qui serait plutôt un désir d'amour, une volonté d'amour, une volonté que le pécheur revienne à lui, une volonté d'ailleurs de lui donner la grâce pour qu'il revienne afin de pouvoir l'aimer. Évidemment, ce respect du pécheur n'a rien à voir avec la fausse dignité humaine moderne dans laquelle on respecte le pécheur dans son péché. Une espèce d'admiration pour l'homme, une espèce de culte de l'homme, indépendamment du plan de Dieu sur lui, ça, ce n'est pas du respect, c'est même à la limite de la haine, parce qu'on enfonce le pécheur dans son péché. Parce qu'on ne rétablit pas le règne de Dieu sur le monde. Parce qu'on bafoue l'amour en le galvaudant. Je vous disais, il doit y avoir un respect. Respect parce que Dieu encore soutient, c'est ce que dit saint Ignace dans ses exercices. Les anges soutiennent encore le pécheur pour qu'il ne meure pas avant de s'être converti. Dieu donne ordre à la terre de porter le pécheur, à l'air de l'aider à respirer, à la nature de le nourrir, et à ses confrères, les hommes, de le supporter. Le zèle se meut dans le sacré, et par conséquent, il exclut toute familiarité, toute insulte, tout jugement téméraire. Saint Benoît demande que les moines ne s'appellent jamais par leur prénom, mais qu'il y ait toujours un titre de distinction qui précède, dont un tel, monsieur l'abbé un tel. Monseigneur Lefebvre était très exigeant également. Il nous demandait de ne pas nous tutoyer mutuellement malgré notre amitié, pour que justement cette amitié entre nous les prêtres soit vraiment conforme à l'amitié divine, qu'elle ne soit pas une amitié faussée, familière, humaine. Et c'est parce que le zèle s'adapte à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ que saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, peut dire que la charité est patiente, qu'elle est bonne, qu'elle n'est pas envieuse, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne tient pas compte du mal, et c'est là que je voulais en venir, elle ne tient pas compte du mal. Bien que le mal soit là, elle sait que Dieu veut pouvoir effacer ce mal. Elle ne prend pas plaisir à l'injustice. On ne traite pas le pécheur avec injustice, même si lui est injuste. Elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout. Elle excuse tout. C'est très surprenant, alors que toute l'Écriture sainte, le bon sens et la raison nous disent, et c'est ce que je vous ai expliqué dans le sermon précédent, qu'il fallait prêcher à temps et à contre-temps la vérité. Et si on excuse tout, alors ne risque-t-on pas d'être en dehors de la vérité? Eh bien non, parce qu'il y a des choses qui nous sont cachées. Nous ne savons pas tout, nous ne voyons pas tout. Nous ne savons pas quelles sont les excuses qu'un homme peut avoir. Nous ne savons pas quel est le degré de son ignorance. Et peut-être avons-nous de la haine envers quelqu'un que nous jugeons mal et que le bon Dieu excuse, parce qu'il sait que le cœur de cet homme n'est pas mal disposé. Voilà pourquoi elle excuse tout, elle croit tout. Elle croit tout, c'est-à-dire qu'elle fait confiance. Elle espère tout. Ça, c'est la raison de tout le reste. Tant qu'il y a de l'espérance, elle croit, elle excuse. Il est évident qu'avec les damnés en enfer, comme il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus à excuser, il n'y a plus à... Mais ça ne nous regarde pas, les damnés en enfer. Nous n'avons pas à dire qui est damné, et même si nous savions qui est damné, ce n'est pas à nous de juger, de déclarer la peine et la culpabilité. La charité supporte tout. Et là, nous en arrivons à la patience. La patience qui est la deuxième qualité que saint Benoît demande pour le bon zèle. Et plutôt que de vous faire un long discours, je vous rappellerai la patience de Jésus avec Judas. « Judas, mon ami, ainsi tu trahis le Fils de l'homme par un baiser. » Ça, c'est le dernier acte de patience juste avant la trahison. Mais avant, notre Seigneur, lui qui savait tout, qui savait combien Judas le trahissait, quelle patience a-t-il eu envers Judas pour essayer de le ramener? On le voit lors de la scène, lorsqu'il lui offre le pain trempé dans la sauce, ce qui est une marque de dignité. On voit la patience de Dieu avec le peuple élu dans l'Ancien Testament. Une fois, Dieu dit à Moïse, « Laisse-moi exterminer ce peuple qui passe son temps à se révolter contre moi. » Et Moïse dit, « Ô Seigneur, si vous l'exterminez, que les Égyptiens vont-ils dire? Ils vont penser que vous avez attiré votre peuple dans le désert pour l'exterminer. » Alors Dieu cède à la parole de Moïse, et une fois de plus, il pardonne à son peuple, et cela va se répéter pendant tout l'Ancien Testament, et d'ailleurs pendant tout le Nouveau Testament aussi. Quelle est la patience de Dieu envers nous, pauvres pécheurs? Vous me direz, mais cet exemple montre que Dieu perdait patience. Mais qui a inspiré à Moïse de rappeler à Dieu la patience, sinon Dieu lui-même? Et si Dieu dit à Moïse, « Laisse-moi exterminer ce peuple », il rappelle là ce qui serait logique dans le droit pur, dans le strict droit. Et il inspire à Moïse de plaider la cause de la miséricorde. Et il cède à Moïse, lui le Tout-Puissant, parce que justement il cède à la patience. Attention, hein. La patience, ce n'est pas seulement d'attendre. La patience, c'est de créer les conditions du retour pour ouvrir l'âme. Regardez Jésus avec la Samaritaine. La patience de Jésus avec la Samaritaine consiste à créer les conditions sans se presser pour que la Samaritaine, petit à petit, comprennent le message d'amour et reçoivent l'amour qu'il a à lui donner. On ne pourrait rien comprendre aux attitudes de Mgr Lefebvre, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup ne l'ont pas compris et l'ont quitté. Son attitude envers le pape, si on ne voit pas son respect envers le pape et sa patience envers le pape. Certains lui reprochaient de discuter avec le pape, il aurait dû l'envoyer promener et s'en débarrasser. Et Monseigneur, un jour, ulcéré par cela, par ces critiques qui lui étaient faites, nous dit en conférence spirituelle, « Mais qu'est-ce que vous voulez? J'essaye de lui faire du bien. Si jamais j'arrive à le convertir, quelle grâce sera pour l'Église ?» Et puis, même si on pouvait penser que la conversion du pape serait bien difficile à obtenir, il était normal de ne pas éteindre la mèche qui fume encore, il était normal d'aller au rythme de Dieu, parce que Dieu, lui, était patient envers Paul VI et envers tous les modernistes. Et enfin, la troisième qualité du zèle, oh là là, je dépasse encore le temps, j'avais pris la résolution de me tenir à des sermons beaucoup plus courts et je me suis encore laissé emporter. Enfin, on fera mieux la prochaine fois. La promptitude à rendre service. La dernière qualité, la promptitude à rendre service. Je viens de lire le récit de Robert Cerveau, un illustre inconnu corrézien, qui était soldat républicain, a fait partie des colonnes infernales et a massacré les Vendéens dans un bourg, Saint-Fulgent, en Vendée militaire. Cet homme revient sur le lieu de son crime. Ils étaient nombreux à revenir sur les lieux de leur crime, car la conscience les mordait. Et il se fait reconnaître. Les Vendéens lui pardonnent, mais ils ne vont pas faire que cela. Ils vont lui trouver un logement et lui acheter un peu de mobilier. Mais notre Corrézien a le mal du pays, alors il vend les meubles qu'on lui a achetés. Les habitants de Saint-Fulgent lui donnent même un pécule pour qu'il puisse rentrer chez lui. Et puis il croit bien qu'ils n'en entendront plus jamais parler, mais voici qu'à l'âge de plus de 80 ans, notre brave Robert Cerveau revient dans ce village qu'il a si bien accueilli, parce qu'il est vieux, il est malade, il est vagabond, il va mourir, il le sait, Alors il revient dans le village où il a été si bien accueilli. Et là, on lui donne à manger partout. Jamais il n'est rejeté dans aucune des fermes. Et puis finalement, quand arrive la fin, c'est le fils de celle qui l'a massacré, qui le recueille chez lui, l'aide à mourir en lui faisant recevoir les derniers sacrements. Cet homme aurait-il pu recevoir les derniers sacrements? Probablement non. Si il n'y avait pas eu toute cette promptitude à rendre service, cette attention à rendre service gratuitement. Et cette gratuité est un élément important du zèle, parce que si le zèle n'est pas gratuit, alors il est intéressé, et ce n'est plus le zèle de la charité, c'est le zèle de notre amour propre, tandis que le zèle de la charité est gratuit. Alors je conclue sur la troisième partie qui va être très brève, mais il faut que j'en dise un mot. Faisons attention au zèle amer. Monseigneur Lefebvre nous mettait en garde contre le zèle amer. Un zèle qui veut imposer ses vues, un zèle qui ne va pas au rythme de Dieu, un zèle qui ne répond pas à l'amour de Dieu, mais à la conception que l'on se fait de l'amour de Dieu. Oh, il ne faut pas accuser de zèle amer tous ceux qui sont maladroits dans leur zèle, tous ceux même qui peuvent blesser par faiblesse, par inadvertance, du moment que leur intention n'est pas mauvaise. Parce que si ce sermon vous dites essentiellement et principalement ce que doit être votre zèle, il faut quand même que je vous dise comment on reçoit le zèle d'autrui. Parce que vous devez répandre la charité, mais vous recevez vous aussi, mes bien chers frères. Vous recevez beaucoup. Vous devez donner, mais vous devez beaucoup recevoir. Et non seulement quand vous donnez, il faut éviter le zèle amer, mais quand vous recevez, il faut éviter l'amertume envers ceux qui sont zélés mais maladroits. En entrant trop souvent aujourd'hui dire qu'on ne peut pas suivre telle ou telle position à cause des défauts personnels du prêtre ou de l'évêque ou du laïc, mais ce n'est pas ça qui est en cause. Du moment que leur cœur est bien orienté, eh bien, il faut admettre que, hélas, ils ont leurs faiblesses comme tout un chacun et comme chacun de nous. Et puis enfin, ce n'est pas la peine que je vous parle du mauvais zèle, le zèle démoniaque. J'en ai assez dit et mieux vaut se taire sur ce sujet. Alors demandez à la Sainte Vierge qu'elle vous donne ce grand zèle que l'on voit dans toutes les vies de saints. Ce zèle bon, doux, patient, miséricordieux, que l'on voit chez les saints, leur a été donné par la très sainte Vierge. D'ailleurs, c'est ce qu'elle rappelle à Fatima. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.